VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Bonjour à tous, il est 5h en temps universel. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, a lancé hier un appel au dialogue et à l'apaisement politique en Côte d'Ivoire lors de son retour dans le pays après plus de 2 mois d'absence. La presse ivoirienne et de nombreux observateurs spéculent depuis 2 mois sur des tensions croissantes entre Guillaume Soro et le président de la République, Alassane Ouattara, prêtant à M. Soro l'ambition d'accéder à la tête de l'État lors de la prochaine élection présidentielle en 2020. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, est attendu demain mardi en Centrafrique où les violences ont redoublé dans les provinces et le mandat des casques bleus de la MINUSCA doit être renouvelé. Le point avec Idriss Fall.
Ancien patron du HCR, Antonio Guterres, s'est déjà rendu en Centrafrique. Cette visite sera sa première à une mission de maintien de la paix depuis sa prise de fonction en janvier. Le secrétaire général de l'ONU arrive dans un contexte sécuritaire tendu. Bangui, la capitale, est relativement calme, mais ces dernières semaines, les affrontements à répétition ont eu lieu vers Bambari, Bria et Bangassou, faisant des centaines de morts. Rien qu'à Bangassou, où doit se rendre M. Guterres, 12 casques bleus ont été tués depuis le début de l'année. Dans un rapport présenté au Conseil de sécurité, le patron de l'ONU a demandé l'envoi de 900 soldats supplémentaires. Le mandat de la MINUSCA avec ses quelques 10 000 casques bleus doit s'achever le 15 novembre et devrait être renouvelé. La mission onusienne est accusée de passivité et même de collusion avec des groupes armés et subit dans le même temps une avalanche d'accusations d'agression sexuelle.
3 femmes kamikazes se sont faites exploser dimanche soir à Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno au Nigeria. Une source anonyme au sein de la milice de la ville qui travaille aux côtés de l'armée pour lutter contre le groupe djihadiste de Boko Haram a confirmé à l'AFP ce triple attentat, assurant que le nombre de blessés s'élève à 16 sur les 2 premières explosions. Dimanche, une alerte avait été lancée à Maïdougouri après que de nombreux membres du groupe de Boko Haram ont été aperçus rôdant autour de la ville, a expliqué la source militaire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au moins 8 personnes ont été tuées et 6 blessées dimanche quand une mine a explosé au passage d'un minibus dans le sud de la Somalie. Selon un responsable de la sécurité locale, Ibrahim Abdoulé, l'explosion a eu lieu à environ 30 km au nord de la capitale Mogadiscio. Le 15 octobre, l'explosion d'un camion piégé a tué au moins 358 personnes à Mogadiscio au cours du pire attentat de l'histoire du pays. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Alfonso Dastis, a invité hier les Catalans à accepter l'autorité de Madrid et a ignoré les instructions des dirigeants indépendantistes de la région. Mariano Rajoy, le président du gouvernement, avait annoncé la veille la dissolution de l'exécutif régional et la mise sous tutelle du Parlement de Barcelone pour sortir de la crise suscitée par le référendum d'autodétermination du 1er octobre. Carles Puigdemont, le président de l'exécutif catalan, a jugé les décisions de Madrid inacceptables et a invité le Parlement régional à se réunir pour y répondre. Les députés catalans doivent se réunir aujourd'hui pour prendre une décision. L'opposant russe Alexei Navalny a tenu un rassemblement politique dimanche soir, quelques heures seulement après avoir été libéré de prison, où il a purgé une peine de 20 jours de détention pour infraction à la législation sur le rassemblement public. L'avocat de 41 ans a tenu son meeting à Astrakhan, dans le sud de la Russie, et a promis de continuer à faire campagne en vue de l'élection présidentielle de 2018, estimant qu'il avait le droit d'y participer. La Commission centrale des élections l'a déclaré inéligible en raison d'une autre condamnation. Et puis la coalition du premier ministre japonais Shinzo Abe a conservé sa majorité des 2/3 à la chambre basse du Parlement à l'issue des législatives anticipées de dimanche, ce qui devrait permettre au chef du gouvernement de relancer son projet de réforme de la constitution pacifiste du pays. Les résultats définitifs seront connus ce matin. Cette victoire garantit a priori à M. Shinzo Abe, arrivé au pouvoir en décembre 2012, d'obtenir en septembre prochain un troisième mandat, ce qui en ferait le premier ministre à la plus longue longévité, à la plus grande longévité depuis la Seconde Guerre mondiale. Il a refusé dimanche de dire s'il avait l'intention de briguer un nouveau mandat. Le prochain journal dans 25 minutes sera en compagnie de Idriss Assiou Didia, Anna Besson, dans le cadre du magazine Le Monde aujourd'hui. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Jacques Aristide.